Docteur Abdelrahman Mebtoul, les conséquences des émeutes de la faim seront pires que le printemps arabe. L'impact de la crise alimentaire mondiale sera plus dramatique sur les pays importateurs de produits alimentaires, pas seulement l'Algérie et l'Égypte, et les pays vulnérables n'ayant pas les moyens de financement comme la Tunisie, le Liban et les pays d'Afrique subsaharienne, a mis en garde le professeur Abdelrahman Mebtoul. Et de poursuivre, l'Occident, qui se dit conscient de cette menace, tente de faire diversion en niant sa culpabilité dans le risque de famine qui pointe à l'horizon. L'économie mondiale risque de connaître une récession pire que celle de l'impact du coronavirus et la crise de 2008, avec une poussée inflationnelle et une augmentation du chômage à l'échelle planétaire, avertit encore l'économiste algérien. En France, où le pouvoir fait preuve d'un zèle excessif dans une guerre à laquelle il assure pourtant ne pas prendre part, l'opposition dit craindre des pénuries de nourriture, voire une famine, qui découlerait des sanctions que Washington dicte aux pays européens d'exécuter contre la Russie. Des sanctions auxquelles de grands groupes industriels et financiers refusent de se soumettre. C'est à croire que tout cela les arrange, que ça fait partie du plan du Grand Reset, faire diminuer la population mondiale par la faim en plus du vaccin. Par les guerres de la faim, lit-on dans un média proche de la droite française qui fustige le président américain, qui a de lui-même mis en cause l'efficacité de ses mesures de rétorsion, tout en se félicitant de voir les États-Unis et le Canada en profiter pour faire de l'argent. Que le président français impute le risque de famine à ce qu'il qualifie d'agression russe contre l'Ukraine, cela ne change rien aux conséquences désastreuses de ce conflit déclenché par les provocations répétées des États-Unis et de l'Union européenne qui ont fini par exaspérer Moscou. En effet, Emmanuel Macron évoque une famine inéluctable dans les 12 à 18 mois à venir. Avec des pénuries de céréales au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, comme par exemple en Égypte, auxquelles s'ajoutent les pays de l'Asie du Sud-Est. Plus grave, Joe Biden a admis que les sanctions ne dissuadent jamais et donc n'ont aucun impact sur la guerre en Ukraine. Pourquoi insistons alors à les mettre en œuvre? Des sources proches de CIA croient savoir que les États-Unis et leurs alliés cherchent à provoquer des émeutes dans de nombreux pays du Sud et semer ainsi le chaos qu'ils ont entamé en 2011 sous le vocable de printemps arabe, en l'élargissant cette fois-ci de nombreux autres pays, en Afrique notamment, où les puissances occidentales perdent leur influence au profit de la Russie, de la Chine et de la Turquie. Les USA vont-ils enterrer le F-22? L'armée de l'air cherche à retirer le F-22 Raptors vieillissant, arguant que les mises à niveau seraient trop coûteuses. L'armée américaine prévoit de retirer 33 F-22 Raptors dans le but de libérer des fonds pour la recherche de nouveaux modèles d'avions de combat, car l'armée de l'air souligne les mises à niveau coûteuses qui seraient nécessaires pour continuer à utiliser les avions au combat. Le Pentagone veut envoyer les prêts de 3 douzaines de chasseurs au cimetière de la base aérienne de Davis, Montana, à Tucson, en Arizona, dans l'espoir d'utiliser les fonds qu'il économiserait pour la recherche et développement dans le cadre du programme Next Generation Air Dominance. Defense News rapporte lundi. Si elle est soutenue par le Congrès, cette décision réduirait la flotte totale de F-22 des États-Unis de 186 à 153 jets. Les projets de déplacement de l'engin vers la Virginie depuis Eglin, AFP, en Floride, sont en pause depuis plus de 3 ans et l'armée de l'air a déclaré que les anciens F-22 actuellement utilisés pour l'entraînement seraient tout simplement trop chers pour rester en forme au combat. Selon le sous-secrétaire adjoint du budget de la branche, le Major General James Pexia. Ces mises à niveau coûteraient près de 3 milliards de dollars au cours des 8 prochaines années, des fonds que l'armée de l'air préférerait investir dans des avions plus récents. Les F-22 restants seraient stationnés dans des bases en Virginie, à Hawaï, en Floride et en Alaska, a déclaré le porte-parole de l'Air Force, Ann Stefanik. Biden propose le plus gros budget militaire américain jamais réalisé. Entre-temps, le secrétaire de l'Air Force, Frank Kendall, a déclaré qu'il ne prévoyait pas de retraite supplémentaire de F-22, de sitôt qualifiant l'engin de militaire première plateforme de combat air-air. L'effort pour économiser des fonds pour la recherche et le développement intervient alors que la Maison-Blanche propose le plus gros budget militaire de l'histoire des États-Unis, recherchant 813,3 milliards de dollars au cours de l'année prochaine, soit 31 milliards de dollars de plus que ce qui a été approuvé pour 2022. La proposition comprend 682 millions de dollars d'aide militaire pour Ukraine, ainsi qu'une augmentation de 9,5% du financement de la recherche et développement, portant le total à plus de 130 milliards de dollars. Alors que l'armée, la marine et les marines pourraient voir une réduction cumulative de quelque 4 300 hommes, l'armée de l'air devrait augmenter de 200 nouveaux soldats. Et si l'Égypte achetait les F-22 américains supplémentaires? La réponse est peu probable car la production du F-22 est arrêtée et donc il n'est plus à vendre. L'Égypte est un pays qui a une alliance étroite avec la Russie. Les avions militaires égyptiens et russes peuvent être utilisés dans les bases aériennes des deux pays alliés réciproquement. En outre, la Russie prévoit de faciliter la construction et la fourniture du premier réacteur nucléaire égyptien et l'Égypte a accepté en échange d'autoriser la Russie à construire une zone industrielle russe le long du canal de Suez. Étant donné que la Russie et l'Égypte partagent les mêmes intérêts dans la Syrie et la Libye, cela rendrait une telle hypothèse obsolète, observe le site Quora.com avant de tirer cette conclusion. Donner des F-22 à l'Égypte reviendrait essentiellement à donner des F-22 à la Russie qui, à son tour, partagerait probablement des données avec la Chine. L'embargo anti-russe a été un échec et cela s'explique. Les dirigeants de l'UE ont renoncé à imposer un embargo immédiat sur les importations de brut et de produits pétroliers russes. L'impraticabilité de cette politique étant devenue évidente. Imposer un embargo immédiat sur les combustibles fossiles russes du jour au lendemain reviendrait à plonger notre pays et l'ensemble de l'Europe dans une récession, a déclaré le chancelier Olaf Scholz aux législateurs allemands cette semaine. Les exportations de brut et de produits pétroliers de la Russie vers l'Europe représentent le deuxième flux bilatéral de pétrole le plus important entre deux partenaires commerciaux dans le monde, derrière les États-Unis et le Canada, selon les données de BP. La Russie a fourni 29% des importations de brut de l'Europe et 51% des importations de produits pétroliers du continent en 2019, dernière année avant la pandémie, Statistical Review of Review. La Russie a fourni 29% des importations de brut de l'Europe et 51% des importations de produits pétroliers du continent en 2019, dernière année avant la pandémie, selon Statistical Review of World Energy, publié en 2020. Aucun autre partenaire commercial ne s'approche de la part de la Russie, ce qui la rendrait extrêmement difficile à remplacer à court terme. Ainsi même, les spéculations sur une éventuelle interdiction ont fait grimper les prix du pétrole en flèche cette semaine. Alors que les traders évaluent les difficultés pratiques avant que les prix ne se replient lorsqu'il est apparu clairement que les responsables politiques de l'UE s'éloignaient de cette idée. Alors un nouvel ordre pétrolier se fait jour. Certains partisans de l'embargo ont suggéré que l'UE pourrait interdire les importations de pétrole russe, puis encourager la réorientation des flux internationaux afin de réduire au minimum la perte nette d'approvisionnement qui pourrait provoquer une flambée des prix. Dans ce scénario, le brut russe sanctionné serait laissé aux acheteurs de la Chine et de l'Inde, libérant ainsi le brut du Moyen-Orient qui serait livré aux raffineries d'Europe. peu. Du côté des produits, le fioul et les distillats russes pourraient être envoyés en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie, tandis que l'Europe prendrait davantage de produits non sanctionnés en provenance des États-Unis, de Chine, d'Inde et du Moyen-Orient. Mais de nombreux obstacles sérieux s'opposent à la réalisation de ce projet, ce qui explique probablement pourquoi il a été reporté pour l'instant. Pour les producteurs et les consommateurs, les voies d'approvisionnement deviendraient beaucoup plus longues, ce qui augmenterait le nombre de tonnes mises de fret, ferait grimper la demande de pétroliers et augmenterait considérablement les coûts de transport. Plus important encore, les pétroles bruts ne sont que semi-fongibles. La plupart des raffineries sont optimisées pour travailler avec des qualités spécifiques de pétrole. L'échange de brut russe et moyens orientaux réduirait l'efficacité, ce qui augmenterait les coûts et les prix. La réorientation des flux perturberait les relations contractuelles et les relations avec les clients établis de longue date. Les négociants du Moyen-Orient ont investi du temps et des efforts pour établir des relations à long terme avec les raffineurs en Chine, en Inde et dans le reste de l'Asie. L'Asie est perçue comme le marché en croissance de l'avenir, tandis que l'Europe est le marché en déclin du passé, surtout avec son plan de transmission accéléré vers des émissions nettes nulles. Rompre des contrats à long terme et renoncer au marché de croissance lucratif de l'Asie pour approvisionner les raffineurs de l'Europe en déclin peut-être seulement pour quelques mois ou années, n'aurait guère de sens stratégique. De même, les raffineurs d'Amérique du Nord ont des marchés lucratifs et semi-captifs en Amérique centrale et du Sud qu'ils seront réticents à échanger contre les marchés russes en Europe. Pour les raffineurs d'Asie, il n'y a guère d'intérêt à rompre des relations à long terme avec des fournisseurs sûrs du Moyen-Orient pour devenir dépendants des exportateurs russes si ces exportations risquent d'être soumises ultérieurement à des sanctions extraterritoriales des États-Unis et de l'UE. L'avertissement du ministre russe de la Défense. Shoigu, nous allons réagir d'une manière appropriée si des avions et des systèmes antiaériens sont envoyés en Ukraine. Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a souligné mardi que la Russie réagirait de manière appropriée si les plans d'un certain nombre de pays de l'OTAN visant à fournir à l'Ukraine des avions de combat et des systèmes de défense aérienne étaient mis en œuvre. Nous suivons les déclarations des dirigeants des différents pays de l'OTAN concernant leur intention de fournir à l'Ukraine des avions et des systèmes de défense aérienne. S'ils sont mis en œuvre, nous répondrons de manière appropriée, a déclaré M. Shoigu. Le ministre russe de la Défense a également annoncé l'achèvement des principales tâches de la première phase de l'opération militaire spéciale en Ukraine, lancée par Moscou le 24 février pour des raisons de sécurité. Il a souligné que l'armée ukrainienne a subi de lourdes pertes au cours de l'opération militaire, ce qui permet de concentrer les efforts sur la réalisation de l'objectif principal de l'opération, qui est la libération du Donbass. Concernant les mercenaires étrangers utilisés par le régime ukrainien dans la confrontation avec la Russie, Shoigu a déclaré « Environ 600 mercenaires étrangers ont été neutralisés au cours des deux dernières semaines en Ukraine ». Shoigu a mis en garde contre la distribution incontrôlée d'armes fournies à l'Ukraine qui pourrait constituer une menace pour l'Europe. Nous considérons la position de l'Occident qui fournit à l'Ukraine des armes létales comme irresponsable et à sa distribution aveugle à la population et aux mercenaires qui ne fait qu'aggraver la situation et peut constituer une menace à l'avenir pour les Européens eux-mêmes, a-t-il averti. Le ministre russe de la Défense a également assuré que les citoyens russes appelés au service militaire ce printemps ne seront envoyés dans aucun point chaud en référence à l'Ukraine. Il a souligné que tous les conscrits appelés à effectuer le service militaire printemps dernier seront démis de leurs fonctions après l'expiration de son mandat et que la durée du service militaire en Russie est d'un an. Il est à noter que la défense russe a annoncé aujourd'hui la destruction de 68 installations militaires ukrainiennes, dont 3 centres de commandement, 4 systèmes de missiles antiaériens, une station radar, 5 lance-roquettes multiples, 2 entrepôts de munitions, 3 entrepôts de carburant et 3 lubrifiants, 12 zones de stockage pour l'équipement et les bastions de l'armée ukrainienne. L'armée russe réduit considérablement ses activités militaires dans les directions de Kiev et de Tchernigov. Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a décidé de réduire radicalement ses activités militaires dans les directions de Kiev et de Tchernigov. Selon le communiqué officiel du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, il a été décidé de réduire radicalement les activités militaires dans les directions de Kiev et de Tchernigov. Cela est probablement dû au fait que dans le cadre des négociations en cours entre les parties russes et ukrainiennes, une décision a été prise pour réduire l'escalade de la tension et entamer les préparatifs en vue de signer un accord sur la neutralité et le statut non nucléaire d'Ukraine. Sachant que des négociations sur la préparation d'un accord sur la neutralité et le statut non nucléaire de l'Ukraine, ainsi que sur la fourniture de garanties de sécurité à l'Ukraine, sont menées lors de la réunion d'aujourd'hui par le ministère de la Défense de la Fédération de Russie, afin d'accroître la confiance mutuelle et de créer les conditions nécessaires à la poursuite des négociations et à la réalisation de l'objectif ultime de convenir et de signer l'accord suspensionné. Il a été décidé de réduire considérablement les activités en direction de Kiev et de Tchernigov, a déclaré le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, colonel général Alexandre Fomin. Les experts notent que grâce à de telles actions, il sera possible d'intensifier considérablement le processus de négociation et de réaliser rapidement les exigences russes envers l'Ukraine. À leur tour, les experts notent qu'il existe un risque très sérieux que pendant cette période, les forces armées ukrainiennes puissent se renforcer considérablement dans ces zones, qui créera des difficultés supplémentaires en cas de rupture des accords de désescalade. Pour le moment, on ignore si les troupes russes resteront dans ces régions ou si une partie importante des forces sera retirée, par exemple, pour opérer dans d'autres directions.